Bonjour à tous, nous revoici pour Tambouille. Donc ça sera la dernière de la saison. Et pour vous servir aujourd'hui, c'est juste moi-même, Myriam Roguet, pour exceptionnellement, non pas la Maison des Arts, mais les tanneries à la Ferrière-sur-Isle.
The menu, please.
Alors, au menu aujourd'hui, tout d'abord, nous allons interviewer André Franchet, qui nous vient justement de la Ferrière. Ensuite, nous aurons l'interview de Shai Mirmont, qui expose depuis samedi aux tanneries. Ensuite, nous retrouverons nos rubriques habituelles dans le Café Gourmand.
Ouais, je voudrais pas me mêler, mais j'ai l'impression que ça s'envolait, non?
Ah bon? Non.
Ah si.
Ah non, non, c'est l'odeur normale, ça.
Bonjour André Franchet. Donc, ma toute première question, ça serait plutôt que vous présentiez et nous dire quel est votre lien avec les tanneries.
Bonjour Myriam, bonjour Shai et bonjour Damien.
Bonjour.
Mon lien avec les tanneries est ancien puisque j'ai été le premier à organiser un peu les tanneries à leur ouverture en 2006. Donc, une petite présence pendant 3 ans pour manager et choisir les artistes qui ont été présentés par les galeries. Mais d'abord, un mot, il s'agit de La Ferrière, qui n'est pas un vain mot, c'est La Ferrière sur Risle. Parce que des La Ferrière dans notre coin, c'est pas ce qui manque. Je tenais à cette précision.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'espace culturel des tanneries ?
Alors, l'espace culturel des tanneries, c'est la suite d'un bâtiment en friche industrielle créé au 19e siècle par une famille très puissante de la région qui détenait ces fameuses tanneries et des moulins. J'ai un des anciens moulins que j'habite. Donc les tanneries, c'était une activité très importante dans toute la France. Vous savez que chaque endroit avait ses tanneries et avait ses moulins à temps, le temps étant le produit qui sert à traiter les peaux. Voilà. Donc les tanneries Roussel, une famille importante de la région, qui est tombée en décrépitude, si vous voulez. La grande Risle, qui était le Silicon Valley de l'époque avant la guerre de 14. Hein. La Risle, c'était fantastique. Il y avait l'énergie avec l'eau qui entraînait des moulins, des usines électriques. Il y avait le bois, il y avait le minerai de fer. Il y avait tout pour faire une région d'une richesse inouïe. Les Roussel avaient donc fait fortune en touchant tous ces métiers plus ou moins. Malheureusement, après la guerre de 14, tout est tombé en désuétude et les tanneries se sont arrêtées grosso modo dans les années 30. Ces bâtiments ont été rachetés plus ou moins par des gens qui n'ont pas exploité parce que ça n'était plus exploitable. Et c'est tombé vraiment dans un état épouvantable. En 1994, la mairie de La Ferrière sur Risle élit, plus exactement la population, élit un nouveau maire, Jean-Jacques Hubert, un artiste tout à fait exceptionnel dans un cadre, un décor étonnant. Jean-Jacques Hubert est un enfant, on pourrait dire un enfant de la balle, qui a été trouvé sur une plage du débarquement en 1944. Vous imaginez que c'était un grand blond avec des très beaux yeux bleus, qui avait beaucoup de charme, extrêmement sympathique, mais qui a vécu orphelinat, famille d'accueil dans des conditions dramatiques à la campagne, et qui était un homme qui a eu un passé et une enfance épouvantable. Et puis il a été sauvé par un monsieur qui l'a considérablement aidé. Et Jean-Jacques Hubert a parfaitement bien évolué, est devenu musicien. On l'appelle le chanteur, le cow-boy Normandie. Il a beaucoup imité Nino Ferrer, dont il a chanté toutes les chansons à droite et à gauche. Il a animé énormément de soirées dans la région normande. Jean-Jacques Hubert devient maire, et à l'entrée de La Ferrière-sur-Isle, une friche industrielle, alors que La Ferrière devait vivre du tourisme, on ne pouvait pas accepter des bâtiments aussi laids, dans un état aussi épouvantable. Jean-Jacques Hubert dit, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça, pour donner une image valorisante du village. Et puis, comme tous les gens qui ont du génie, il rencontre d'autres gens qui ont du génie. Et puis, ça, il a l'idée. Et si on faisait un ensemble socioculturel, peinture, des ateliers, éventuellement un bâtiment où nous pourrions recevoir dans l'année des artistes à demeure, etc. Bon, il ne faut peut-être pas rêver non plus. Nous sommes une petite commune de 180 et quelques habitants. On peut faire des choses, mais on ne peut pas tout faire. À cette époque, 95, la commune de La Ferrière-sur-Isle rentre dans la grande communauté de communes de Conches. Et Jean-Jacques Hubert tombe sous le charme d'un homme aussi exceptionnel que lui, Alfred Recours. Alfred Recours, qui à l'époque a été député ou va être député ou est député et maire de Conches. Il deviendra ensuite vice-président du conseil départemental. Enfin, un homme d'une qualité exceptionnelle que j'ai pu apprécier personnellement nombreuses reprises. Et Alfred Recours est approche, un de ses proches, qui est Christian Gobert, qui est chargé de la culture tant à la commune qu'à la communauté de communes. Jean-Jacques Hubert lui explique le projet. Monsieur Recours trouve ça tout à fait intéressant, sachant que la communauté de communes de Conches n'avait rien de socioculturel sur cette partie de du territoire, adopte l'idée. Et par contre, là arrivent les difficultés. Mais quand on a un bon dossier, quand on a des hommes persévérants et qui ont du génie, on arrive. Et on trouve les financements, 300 000 euros, qui viennent de l'État en partie, de la région, du département et de l'établissement public de la Basse-Seine. On trouve un excellent architecte, Jean-François Giffard. Les travaux débutent en 2003. Et là, évidemment, le déblocage des fonds ne se fait pas systématiquement tout de suite. Il y a des tranches, etc. Et on aboutit à une ouverture en avril 2010. Et Christian Gobert fait une exposition de peinture. Christian Gobert, qui est quand même photographe et un artiste de grande renommée dans sa spécialité, expose un Olivier Mériel, qui est lui-même un grand artiste, un grand photographe, très reconnu. Cette exposition explose. C'est l'ouverture des tanneries se fait en fanfare. Vraiment, on peut difficilement rêver mieux. À La Ferrière-sur-Isle, nous avons la chance aussi d'avoir des artistes, notamment Albert Adjiganev, qui est un peintre d'origine bulgare, qui a fait les Beaux-Arts en Bulgarie, qui a ensuite refait les Beaux-Arts à Paris, et qui est venu s'installer à La Ferrière-sur-Isle de façon permanente, et qui a un rôle moteur aussi dans les tanneries, parce qu'il d'abord, il m'a beaucoup aidé dans le choix des artistes, en m'en suggérant d'ailleurs, souvent. Donc, c'est la présence d'Albert et de Daniel Adjiganev ont été très importants pour le développement des tanneries. Voilà, pour l'origine, est-ce que c'est devenu, et les hommes qui ont été importants dans tout ce développement.
Très bien. Du coup, donc vous avez expliqué un petit peu l'historique de la transformation des tanneries, mais est-ce que vous pouvez nous parler du lieu ? Je pense que nos auditeurs seraient intéressés, parce que s'ils n'y ont jamais été, de savoir à quoi ça ressemble.
Ah, ben bien sûr.
Parce que c'est un très beau lieu, donc je pense qu'on peut attiser leur curiosité comme ça.
Tout à fait. Ben d'abord, je parle comme un chauvin épouvantable, bien que n'étant pas né à La Ferrière-sur-Isle. C'est un charmant village dont deux monuments sont classés aux monuments historiques. Une partie de l'église, bien sûr, avec un rétable Renaissance admirable. Et puis, surtout, quelque chose qui se voit de partout, ce sont les grandes halles qui datent du XIVe siècle, qui sont en ce moment en travaux. On refait la charpente, mais c'est un endroit magique où, on fait des concerts de jazz, enfin... Tout à fait. La Ferrière a subi la guerre d'une façon terrible, puisque la moitié du village qui est en bordure de Ril a été explosé par des bombes alliées pour empêcher les Allemands de traverser le pont sur la Ril pour aller se redéployer sur d'autres théâtres d'opération. Trentaine de morts. La Ferrière est donc bordée par la Ril. C'est une des plus petites communes de France, 17 hectares. dans lesquelles on est très compressé, mais on s'y plaît beaucoup. Il y a encore beaucoup de végétation, beaucoup de fleurs, c'est un village fleuri. Il y a une bonne ambiance de bons Gaulois, quoi. Voilà. Alors, l'étannerie Saint-Aigle, c'est à l'entrée de la Ferrière-sur-Risle sur la route qui va de Conches à Bernay. L'entrée à droite, un grand bâtiment en briques, mais qui a été entièrement rénové. Très, très beau bâtiment avec à l'intérieur une lumière tout à fait particulière qui met en valeur des peintres que nous exposons en général. Voilà.
Très bien. Ben, je propose, par rapport au temps, de faire une petite pause musicale et on reprendra l'interview après.
Depuis mes sources du Nil jusqu'en haut de la tour Eiffel, j'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer, j'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez le studio, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé, j'ai douté. J'avance sur des chemins chaotiques, venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Couteux, dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant, mais je reflète l'obscurité, identité. De porcelaine, j'ai fait ce morceau-là pour assembler le puzzle d'un humain morcelé. Jamais à ma place, les frontières j'efface et mes frais comme Damas, mon sentiment de race, blanc et noir. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent distinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Un beau bordel chromosomique, demande à Benetton, mais laisse béton, nos rabots se mélanger, on restera des cons. La race humaine un clébard, marquant son territoire, gueulant l'appartenance à son département, ni blanc ni noir. J'étais en recherche chromatique, mais le métis n'a pas sa place dans un monde dichotomique, donc c'est dit, je suis noir dans ce pays. C'est pas moi qui l'ai voulu, je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre, on serait tous métis, le reste c'est de la bêtise. Voilà que j'ironise sur ce que les artisans de la paix disent. J'ai pas de frontières, j'ai pas de race, je suis chez moi partout sans être jamais à ma vraie place. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi, toi l'autre différent, mais au fond si proche de moi. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'entassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Métissé, prisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent, complexé, toujours en quête d'identité. Y'avait le blanc, y'avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où l'on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'y ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan à la saison des fontes. Je soupire, ça transpire, la connerie, ça s'empire. Quand on m'appelle le sang mêlé, sous-entendu, issu de sang pur. Je vois bien, ces questions ne nous mènent à rien. L'humanité est colorée, donc soyons daltoniens, je vous parle d'amour. Moi, vu qu'il expire dans un mouroir, je suis mulâtre et ben albâtre, voulant abattre le miroir. Et comme l'Afrique est en instance de centre, ciel et terre, et que j'ai le cul entre deux chaises, j'ai décidé de m'asseoir par terre. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Ils n'en forment plus qu'un.
Alors, on va continuer avec André. Donc, on en profitait pour parler comment s'organisent les expositions.
Et oui,
qui décide de ce qui va être exposé ?
Très important. D'abord, il y a deux types d'expositions, en fonction du statut même de cette salle. Ce bâtiment et cette salle appartiennent à la communauté de communes de Conches, qui en est strictement propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a 27 propriétaires ou copropriétaires, sont les communes de la communauté. La Ferrière n'est qu'un des participants. Il y a un contrat entre la communauté et la commune de Conches. La commune de Conches, bien entendu, se réserve des périodes de l'année où elle veut faire ses propres expositions avec son budget et sa communication. Il faut s'empresser de dire qu'elle a des moyens que la Ferrière n'a pas. Donc elle fait un catalogue tout à fait remarquable, elle fait une communication par affiche, etc., invitation, enfin, elle fait tout ce travail important de communication pour que les artistes, quand ils exposent, aient beaucoup de visiteurs. Bien. Et en général, c'est Christian Gobert et en relation avec le président de la communauté de communes qui décide qui va être exposé. Christian Gobert a un carnet d'adresses dans le monde artistique tout à fait important et qui touche plusieurs disciplines, pas seulement la peinture, mais la photographie, bien entendu, puisque c'est là qu'il a son cœur. Bien, alors ça, c'est Conches. Pour la Ferrière sur Rhine, à l'époque où ma modeste personne s'occupait des tanneries, eh bien c'était moi. qui n'est pas une culture artistique gigantesque, mais enfin, j'ai visité à peu près tous les grands musées du monde, donc j'ai quand même une vision. Mais je ne sais pas tout, je ne suis pas un artiste moi-même, et quand on n'est pas créateur, il vous manque beaucoup, et j'en suis conscient. Mais Dieu merci, j'avais autour de moi notamment Albert Adjiganef et Daniel, qui étaient souvent de très bons conseils, mais j'ai souvent fait des expositions tout seul en décidant que tel artiste il me plaisait, que ce qu'il présenterait allait convenir aux gens qui viendraient voir ces expositions, c'est-à-dire les communes, les gens, les habitants des communes avoisinantes et tous mes amis de la région Normandie à qui je faisais une publicité monstrueuse pour les expositions que je décidais pour la commune. Et bon, ça a marché comme ça pendant des années. Je crois que c'est toujours le cas. Quand j'ai cessé d'avoir cette activité, Daniel Adjiganef, qui a, elle, une légitimité très supérieure à la mienne, d'abord parce qu'elle a fait, quelques années de Beaux-Arts, femme d'un grand artiste bien connu, qui connaît parfaitement le milieu artistique, et notamment des peintres, et pas que de la région, Dieu merci, avec une envergure internationale, puisque sous leur patronage, de nombreux artistes étrangers, hommes et femmes, j'insiste beaucoup sur la différence, nous avons exposé des hommes et beaucoup de femmes aussi. Beaucoup d'étrangers, nous avons des artistes franco-américains ou japonais, anglais, enfin, bulgares bien sûr, et bien d'autres. Donc, une culture internationale et absolument pas machiste. Voilà, j'ai répondu à votre question ?
Oui, très bien. Et d'ailleurs, ça rebondit sur une question que je m'étais posée, c'est est-ce que les tanneries ont une particularité ou les expos par rapport à un autre lieu d'exposition ?
Oui.
Moi, je l'ai ressenti, mais du coup, je me demandais si c'était juste une impression ou si c'était réel.
Non, c'est tout à fait réel. C'était une volonté que nous avions dès le départ. Quand on a vu Mériel et la grande exposition Ziekowski, là, qui était la première exposition de peinture, qui a été faite par la communauté de communes de Conches. Ziekowski est un peintre d'origine polonaise, une grande famille russo-polonaise, parce que la famille Potocki, une fortune gigantesque. Il n'a jamais vendu un seul de ses tableaux, alors qu'il en a peint 2 ou 3 000. Donc Ziekowski, ça nous a mis tout de suite la barre très, très, très haut. Donc on a décidé de ne faire, de n'exposer que des peintres professionnels qui vivaient de leur art, mais des peintres professionnels que nous avions sélectionnés avec énormément de soin. Nous voulions être très haut de gamme. Et nous avons réussi à le maintenir jusqu'à maintenant. La preuve avec Chai, dont on va parler dans très peu de temps.
Oui. Et donc, toute dernière question, je me posais la question si, du coup, cette exigence se ressentait dans les publics. Est-ce que les publics des, le public des tanneries est aussi un amateur d'art ? Est-ce que ça se ressent aussi, ça ?
Ça dépend aussi si, si l'artiste a un niveau très non figuratif, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un certain public. Quand on fait du figuratif, je pense qu'on attire davantage et que le côté sociaux, alors socio-culturel, puisque cette maison s'appelle, c'est un établissement socio-culturel, on ouvre beaucoup, on élargit beaucoup. Mais la tentation, c'est de faire peut-être un peu trop, comment dirais-je, intellectuel. Et là, on risque de se brimer et que la fréquentation ne soit pas optimum. Voilà.
Je crois que... Bah, merci beaucoup André Franchet, c'était super. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et peut-être pour introduire Chai, peut-être la pause musicale.
خوش آمد بنفشه
Donc c'était une chanson du Nouvel An par la chanteuse Madié. Donc
à gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger,
Chaye Mirmont. Bonjour Chaye.
Bonjour Myriam.
Donc toute première question, comme on vient de parler des tanneries, vous, quel est votre avis sur ce lieu ?
Voilà, pour moi tannerie c'est une très belle salle dédiée uniquement à l'exposition, ce qui est extrêmement rare. J'ai exposé partout en Seine-Maritime, Paris, mais il n'y a pas une salle qui est dédiée qu'à ça. Il y a une très belle salle de fête, qu'on installe des panneaux, des éclairages pour une manifestation ponctuelle. Mais avoir une salle qui est dédiée à ça, aussi grande, aussi belle, ça c'est vraiment, il faut féliciter l'initiateur de ce lieu-là. C'est un grand plaisir pour les exposants dont je fais partie ces derniers temps.
D'accord. Ben, merci beaucoup. Alors, maintenant, on va parler un peu plus de vous. Donc, comme je disais, votre exposition a débuté tout juste samedi. Et donc, je voulais que vous nous parliez de votre parcours professionnel.
En fait, j'avais toujours deux métiers parallèles. Mon métier avec lequel je vivais, c'était la photo, parce que vous savez... La peinture, bon, c'est pas un métier qu'on peut vivre avec. Certains, ils ont de la chance. Mais bon, d'autres, il faut toujours trouver. Donc, je commençais, quand je suis arrivé, d'abord, peut-être, il faut que je donne une petite historique de ma vie. Moi, je suis venu en France. Je suis né à Téhéran. Je suis venu en France en 78. À l'époque où le Shah était encore là, avant la Révolution. Comme je ne parlais pas du tout français, la raison pour laquelle je suis venu ici, c'était mon épouse, que j'ai rencontrée au cours d'un très long voyage. Donc, Alliance française, évidemment. Travaillais, allais à l'école de photo à Paris, 12 ans, et commençais à travailler photographe. Mais je peignais toujours, à côté. Je continuais à travailler de reportages, des grands laboratoires parisiens, préparation des expositions des très grands photographes. Et finalement, je me suis trouvé, je crois que c'est en 98, à Conches. Toujours pareil, peinture et la photo. Je commençais à exposer un petit peu à gauche et à droite, mais comme le métier est photographe, quand vous avez un boutique, c'est très prenant, c'est-à-dire il faut commencer le matin et terminer le soir. Samedi, souvent, il y a des reportages, mariages et tout ça. Je n'étais pas disponible à exposer. Depuis quelque temps, cette disponibilité, je l'ai, et j'expose, et ça va dans le bon sens, en fait. J'ai réussi à exposer... à deux grandes expositions parisiennes, Art Capital et le Salon d'automne Paris, dont j'ai eu deux mentions, de les deux. J'ai réussi à être disponible d'exposer dans une galerie qui s'appelle la Galerie 89 dans le Paris 12e. J'ai réussi à aller à Honfleur voir les galeries, donc j'ai exposé dans deux galeries également. Donc voilà, j'ai cette... disponibilité d'être sur place ou aller voir les gens m'a été donnée depuis seulement quelques années.
D'accord. Oui, André ?
Galerie 89 à Paris.
Oui.
C'est sous la voie ferrée. Après la Bastille,
absolument.
Où on trouve tous les grands photographes du monde qui sont exposés.
Ah,
Chaye, bravo. Hein. Être
Merci
exposé
beaucoup.
Là, c'est une consécration pour nous. Hein.
Merci beaucoup.
En vous écoutant, Chaye, j'ai une question qui m'est venue. Donc, Donc, si j'ai bien compris, la peinture a toujours fait partie de votre vie. Et en même temps, vous étiez photographe. Est-ce que vos deux métiers se sont alimentés l'un l'autre? Ou c'est vraiment deux choses totalement différentes?
Et c'est très difficile à répondre à cette question. Moi, j'essaie de le voir, de répondre autrement. La photo, vous avez un appareil, une machine devant vous. Il suffit de trouver une composition intéressante, aussi bien un portrait qu'un paysage. Vous déclenchez et vous aurez tout d'un seul coup. Mm-hmm. Le métier de peinture, métier de peintre, en fait, c'est comme le métier d'écrivain. Vous avez une toile blanche devant vous, vous avez une certaine idée, vous avez préparé votre croquis, mais vous commencez vraiment de zéro. Et ces deux-là, il n'y a pas tellement de ressemblance dans ce sens-là. Mais ils partagent évidemment tous les deux le domaine visuel et image.
D'accord. Alors maintenant, je vais vous poser la question pour donner envie à nos auditeurs d'aller voir vos peintures, de nous en parler. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Est-ce que c'est abstrait ou figuratif? Quelles sont les influences de votre peinture? Les couleurs, la technique? Vraiment de qu'on puisse quasiment les imaginer, si c'est possible, bien sûr.
Bon, j'essaye d'en parler, mais c'est vraiment pas très facile de parler à la radio pour une peinture. Tout simplement, la peinture que j'espère vos auditeurs puissent aller le voir, c'est une peinture qui est que j'ai inventée en quelque sorte depuis une vingtaine d'années et je travaille là-dessus. Il faut dire que je peins abstrait et figuratif parce que il y a certaines personnes qui se emprisonnent soit dans l'un et soit dans l'autre. Pour moi, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en peinture abstraite. Et moi, j'ai certains messages, j'aurais souhaité que ça soit entendu. Donc, je fais figuratif également. Dans cette exposition, il y a les deux. Alors, en ce qui concerne la peinture abstraite, moi, j'utilise une composition libre, comme tous les peintres abstraits, mais à la place de couleurs, j'utilise les motifs de mon pays d'origine, Iran. Donc, c'est une peinture abstraite avec les motifs de mosaïque, de tapis et de monuments. Pour vous donner, pour avoir une image, l'adresse de mon site, pour que vos auditeurs puissent aller directement voir déjà, mon prénom est Shai. S-H-A-Y. Mon nom est Miromo. Il suffit tout simplement taper Shai Miromo, mon site, ou Shai Miron, tout simplement. Vous allez tomber sur le site et vous allez voir le genre. Je ne peux pas dire plus précisément mon travail. Il y a une partie, par contre, figurative, et je peux un petit peu parler. C'est dédié, c'est un hommage aux femmes d'Orient. J'essaie dans cette peinture-là d'énoncer leur enfermement, dont elles sont victimes, mais tous les jours, mais à travers de toujours le même style, avec des couleurs très vives, avec les compositions assez réfléchi de manière à ce que cette souffrance puisse suggérer, pas faire mal, parce que après tout, une peinture, c'est avant tout le plaisir des yeux. Il faut que quand on le regarde, d'abord, soit attirant. Donc, ce n'est pas un reportage photo, en fait. C'est vraiment côté pictural. C'est très travaillé pour que ça soit de voir, mais bon, le résultat, c'est évident. J'essaye de les rendre visibles et surtout leur envie d'être visibles.
André, vous l'avez vu, cette exposition, parce que je vous ai même croisé ce matin, vous m'avez dit hors micro, alors là, attention Damien, parce que je vous dis, c'est magnifique ce qu'il fait. C'est toujours très dur aussi de parler de ses œuvres lorsqu'on est un artiste, c'est très compliqué. Alors déjà, nous on a la problématique visuelle, même si là je trouve que Chai, vous en êtes bien tiré. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est peut-être aussi d'avoir votre regard à vous, André. Sur le travail de Chai, votre ressenti, parce que ce sera peut-être davantage parlant, c'est très compliqué à un artiste de parler de son...
D'abord, l'influence iranienne, elle est...
Très présente.
Totale. Ouais. Elle est totale. Bon, il se trouve que je ne connais pas l'Iran, mais que j'ai vu pas mal de choses qui ressemblaient à l'Iran en Ouzbékistan, puisque la route de la soie, notamment Samarcande...
Absolument.
On retrouve complètement d'abord les motifs et la même matière. Beaucoup de papier mâché qui font tous ces tombeaux des grands prédateurs ouzbeks qui ont envahi toute l'Asie et même une partie pas très lointaine de l'Europe, puisque la Turquie a été
absolument
à l'époque. Donc j'ai vu un peu l'art hindou. L'art perse en dehors de la Perse. Et je retrouve alors totalement les motifs que j'avais aimés, que j'avais vus, notamment à Samarcande. Et en plus, j'ai un goût particulier pour les tapis. Je vous signale qu'il y a quelques tableaux avec des tapis absolument magnifique, mais c'est qu'une toute petite partie de l'exposition.
Ça veut dire, Chai, là, que pour le coup, vous avez comme support utilisé des tapis ?
Non.
Ou c'est un ressenti, c'est un effet ?
En fait, c'est... Moi, j'ai une technique assez particulière. Donc, j'ai à ma disposition, je prépare une dizaine de cornets ou des pochoirs en papier calque. Je le remplis par des couleurs épaisses sorties de tubes. Je ferme d'un côté. Et exactement à la même manière qu'un pâtissier décore son gâteau avec le chocolat chaud, bon, je... appuie d'un côté, et de l'autre côté, il y a un filet de peinture qui sort. Si vous venez voir mes peintures, vous verrez qu'il y a des lignes qui sont complètement en relief. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous touchez, vous avez des motifs de mosaïque, motifs de tapis sous vos mains. Ils sont en relief parce que ce filet de peinture, il ne se fond pas sur la toile, il se tient. Et ça sèche rapidement. Évidemment, la peinture doit être une peinture acrylique parce que le séchage est rapide et ça me permet d'avancer autrement. Voilà. Et ensuite, ce côté-là, c'est déjà assez rare. D'une part, c'est pas parce que la réalisation est longue, donc, et d'autre part, c'est pas très connu. Même au Grand Palais, où il y a quand même 6 à 7 000 peintres et artistes participent partout dans le monde, il y a des gens qui me disaient « on n'en a jamais vu ça ». Donc c'est quelque chose de long, mais il faut l'aimer. Moi j'aime bien, je ne compte pas le temps, mais l'effet visuel est assez étrange, assez surprenant. Les personnes ont envie d'aller toucher tout doucement, sans que quelqu'un le voit, la matière qui est sur la toile. C'est quelque chose de très tactile, en fait. On le voit, mais on a envie de le toucher. C'est pas, on ne peut pas se contenter uniquement de l'observer.
Les matières, les couleurs, mais les formats aussi, Chai, comment vous les imaginez ? Parce que potentiellement, ils ont une deuxième vie, ils sont acquis, ces tableaux ou ces œuvres, ou vous les conservez systématiquement toutes ? Elles sont potentiellement achetables.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc, du coup, est-ce que vous, avez, vous tenez compte, justement, du format pour qu'il soit adaptable dans une maison classique, avec des murs classiques, ou est-ce qu'on s'enlève ça parce que, de toute manière, on a envie d'exprimer son œuvre à
travers ? Voilà, je crois qu'il faudrait, comme la plupart des peintres, si on commence à prendre certaines choses en considération, ça nous dévie un petit peu. Certains tableaux, peut être, dans cette exposition, il y a des tableaux qui font 50 sur 50 centimètres.
D'accord.
Et il y a des tableaux qui font 1 mètre sur 1 mètre. Mais on ne peut pas faire la toile à 50 sur 50 à 1 mètre parce qu'il est trop grande pour ceux qui le présentent. Par contre, le tableau qui a 1 mètre, et on ne peut pas, dans le sens, le rendre plus petit. Il faut que le champ visuel des personnes qui le regardent soit rempli par l'image. C'est plus poignant. Surtout que j'ai utilisé le sujet qui est aussi fort que la peinture.
Alors, juste un petit mot. Chay, dans les peintures, il y a souvent un portrait de femme.
Oui.
Elles sont ravissantes. Absolument ravissantes. un plaisir de l'œil. Et j'adore le tableau délicieux, Les Amants.
Oui. Alors, si vous avez... Le tableau des Amants, c'est assez particulier. Il représente la première page de le catalogue, mais il est complètement différent des autres. Oui. En fait, ça, c'est à signaler que ce genre de peinture, je le fais pour mon propre plaisir, pour la première fois. Je suis allé voir au Louvre une exposition sur la peinture Qajar, qui représente une dynastie qui était en Iran il y a 130 ans. Il a resté presque 2 siècles, mais cette dynastie est terminée il y a 130 ans. Et eux, ils étaient très ouvert pour l'art de portrait. Et il y a un style qui s'est produit pendant cette période qui s'appelle le style Qajar. Je suis allé voir cette exposition-là et ça va tous mes souvenirs d'enfance est revenu. Enfin, et je dis absolument, il faut que je fasse quelque chose, mais il faut que je introduise ma manière. Je ne peux pas copier. Donc j'ai pris un petit peu encore les mêmes choses pour les femmes. J'essayais de faire un couple libre. Enfin, ce tableau, il s'agit d'un couple amoureux, les amants, assis dans un endroit très sympathique et dans une position relativement décontractée qui est interdit actuellement même d'imaginer. En Iran, et ils sont en train de boire quelque chose qui ne ressemble pas tout à fait de l'eau. Donc, sur un bon public, c'est un clin d'œil à Brassens presque, et c'est les amoureux de mon public, mais en Iran. Donc, voilà, ça c'est ce côté particulier de ce tableau.
Alors, ce tableau, c'est Penet ou les bons publics. Mais Penet, vous vous souvenez, c'est Penet et ce qu'ils boivent, c'est un filtre d'amour, bien sûr.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Chay, de nous avoir parlé de votre peinture.
Merci à toi.
Donc, on rappelle, si vous voulez les voir en représentation, vous pouvez aller sur le site de Chay, donc chay.miremont, ou vous pouvez bien sûr aller les voir en vrai, et surtout les voir en vrai, aux Tanneries. Donc l'exposition est ouverte jusqu'au dimanche 18 août, et elle est ouverte que le week-end, donc le samedi et le dimanche, de 14h à 18h.
André, la Ferrière-sur-Risle, il y en a qui connaissent, qui ont établi, qui ont repéré, et d'autres qui ne sont pas précisément de Danville ou de Conches et ne connaissent pas trop bien. Quelle direction on prend quand on passe Conches ?
Quand on passe Conches, on prend la direction Bernay. Et on arrive inévitablement à la Ferrière-sur-Risle.
Par la Ferrière-sur-Risle.
Voilà, inévitablement. C'est un point de passage obligé.
Voilà, et ben, il fallait être clair. Hein, voilà. C'est la direction de Bernay en sortant de Conches-en-Ouche.
Et donc, allons-y pour notre dernière pause musicale.
Avec du bon, très bon produit local. C'est ça qu'on pourrait dire, Myriam.
Oui, tout à fait. donc c'était All You Need Is Rock'n'Roll, interprété par Barbe Noire, qui auront l'honneur de... d'ouvrir Rockin' Évreux vendredi.
Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon.
Le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Et donc, pour débuter notre dernière rubrique, qui est un peu notre café gourmand de l'émission, il y a l'inratable de la médiathèque. Et une fois n'est pas coutume, je ne vais pas présenter un livre, mais un film en DVD. Donc c'est le film Green Book, sur les routes du Sud, par le réalisateur Peter Farrelly. Donc, pour en parler très rapidement, c'est l'histoire d'un videur d'origine italienne à New York dans les années 60. Et il est engagé par un pianiste de renom international, le docteur Don Shirley, pour aller faire une tournée dans le sud des États-Unis. Sauf qu'à l'époque, il y a la ségrégation qui sévit dans ces États. Et donc, bah, c'est un peu la choc des cultures entre ces deux personnes, puisque donc le videur-chauffeur est assez rustre, il n'a pas du tout de notion de bienséance. Et à côté, on a le pianiste de renom international, un petit peu précieux, un petit peu, je vais pas dire coincé, mais bon voilà, il a des bonnes manières et il a du mal à s'en dévier. Et donc les voilà partis sur les routes du Sud et ça va être vraiment une leçon de vie pour les deux. Et pour nous spectateurs, c'est admirable. Donc la musique déjà, puisque Don Shirley est un petit peu dans la veine du jazz et du classique aussi. Il y a des répliques savoureuses et puis on est touché par ces deux personnes qui apprennent à s'apprivoiser au fur et à mesure. Et donc voilà, si vous voulez le retrouver à la médiathèque, bah, il est disponible depuis peu. Donc voilà.
Rajouter tout de même que ça part d'une histoire vraie, c'est
oui,
ça qui est pas
oui,
précisé,
tout
mais
à fait.
C'est incroyable, c'est une histoire vraie, alors bien sûr un petit peu romancée aux accents hollywoodiens, mais qui me semble rester très juste et qui nous offre effectivement des scènes cocasses et très, très humaines.
Très humaines.
À rappeler, donc basé sur une histoire vraie, ces deux personnages ont existé et ont eu cette belle histoire romancée et mise en image.
Voilà, exactement. Merci Damien.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va, tout va.
Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vive les quenottes qui croient qu'ils grignotent. Quand l'appétit va, tout va.
Et voilà notre dernière rubrique, le panier du mois, qui est en fait notre agenda. Alors, pour commencer, donc on a nos deux expositions d'été, donc celle aux tanneries Le Parfum d'Orient par Chaï Mirmont. Donc, je répète, c'est ouvert le samedi et le dimanche après-midi de 14h à 18h, donc dès maintenant et jusqu'au week-end du 17-18 août. En parallèle, à la Maison des Arts de Conches, on accueille actuellement un hommage à Bernard Pateau. Donc, c'était un peintre local qui nous a quittés il y a 2 ans et donc sa famille et Monsieur Gobert ont décidé de lui rendre hommage avec une exposition à la Maison des Arts. Ensuite, le mercredi 3 juillet, à partir de 16h30, il y aura le dernier rendez-vous de l'année pour notre club ado Les Bouquineurs à la médiathèque. Les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet, on accueille notre 4e édition des Dimanches de l'Orgue à l'église Sainte-Foy. Donc chaque concert aura lieu à 17h. Le jeudi 22 août 2019, la médiathèque a décidé de sortir de ses murs et d'aller investir l'arboretum de Conches. Donc vous pourrez avoir des informations sur les inscriptions, sur les prêts. Un déjeuner participatif sera organisé et ensuite vous pourrez profiter de l'exposition qui a lieu au musée du terroir sur le thème des carreaux de l'abbaye. Donc en parlant des musées, donc toujours jusqu'au 22 septembre, il y a toujours l'exposition animale bestiaire du 19e siècle jusqu'à la fin du 20e siècle au musée du Vert. Et toujours jusqu'au 22 septembre, au Pays du Terroir, il y aura donc les carreaux de l'abbaye. Tout l'été, ces deux expositions proposent à des dates précises des visites commentées et des ateliers en destination des enfants. Vous retrouvez toutes les dates sur le site du musée ou sur le site de la ville. Ensuite, les week-ends, le week-end du 6 au 8 septembre, Conches est en fête, traditionnellement. En parallèle, s'ouvrira l'exposition des peintres du dimanche à la Maison des Arts qui se poursuivra jusqu'au samedi 22 septembre. Et enfin, le samedi 21 septembre à 19h, la salle de spectacle aura le plaisir de vous présenter sa saison 2019-2020. Et voilà, j'ai fini mon agenda et donc je vous donne rendez-vous le mardi 24 septembre 2019.
Voilà, pour être précis, merci beaucoup Myriam pour cet agenda et ces nombreux rendez-vous. On remercie encore André, merci beaucoup pour cet éclairage, cette explication de texte, cette histoire incroyable que ce lieu d'exposition dans une petite commune et pourtant avec grand et bel espace et avec grande et belle qualité d'artistes mis en lumière. Bravo à vous et vos camarades, vous devez être nombreux à agir de la sorte pour faire vivre ce lieu et mettre en lumière les travaux de plein de passionnés, d'artistes de qualité. Bravo André et merci pour votre venue ce matin. Et puis merci à vous, Chay Mirmont, pour votre travail, votre passion et votre histoire de vie qui se ressent dans vos œuvres et qui sont belles, hautes, grandes en couleur et qu'on a hâte de découvrir. On rappelle, hein, il y a un site internet qui le permet et puis visuellement de les toucher, de les palper, de s'en rapprocher aux tanneries de la Ferrière-sur-Risle. Est-ce que vous avez un mot de la fin, messieurs?
Oui. Moi, je voudrais rendre un hommage un peu particulier au directeur des musées de Conches, Éric Drouet, qui nous a beaucoup aidés lors de la création des tanneries. Ses conseils techniques étaient plus que judicieux et très, très utiles. Il nous a toujours soutenus. Merci, Éric.
Donc, merci à Éric.
Chay, un mot ?
Juste vous remercier.
Et puis, vous êtes présent, hein, au moins jusqu'à début juillet, c'est ça, hein, sur les week-ends.
Même un peu plus.
Eh ben voilà, c'est le moyen de voir les œuvres et de parler avec l'artiste qui les a produites et réalisées. Foncez. Merci beaucoup, Myriam.
Ben, merci à toi, Damien.
C'était un bel épisode de La Tambouille. On souhaite un bel été à toutes et tous. Et on se retrouve en septembre. Au revoir.
Au revoir.
Le vivre ensemble pour moi est un peu plus beau, fort que deux, trois mesures dites de discipline ou de règlement intérieur. Et le vivre ensemble, ça passe aussi et peut-être même surtout par la culture. La plus belle arme qui soit pour lutter contre le sentiment que l'autre n'est pas pareil que moi. Je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Alors que la culture, c'est « je ne te comprends pas, donc je vais m'installer et je vais t'écouter, parce que ça m'intéresse. » C'est ça, la culture.
Sometimes an extremely dangerous practice. Sometimes.